Bonjour, vous écoutez Passé Présent, l'émission historique de Radio Judaïka. Avec moi en studio, Sylvie Bodin, journaliste aux dernières nouvelles d'Alsace, plus particulièrement attachée à la rédaction des Saisons d'Alsace, qui publie son 95e numéro consacré à l'astronomie, quand l'Alsace scrute l'univers. Nous allons donc partir dans les étoiles avec vous, Sylvie. L'Alsace est riche de références à l'astronomie sur le plan patrimonial et historique. Nous avons sélectionné quelques thèmes que nous allons illustrer au cours de cette émission, à commencer par un incontournable, l'horloge astronomique de la cathédrale. Il faudrait dire les horloges astronomiques de la cathédrale, car il y en eut trois, celles que nous connaissons aujourd'hui, et donc la troisième du genre. La première remonte au début de la seconde moitié du 14e siècle. Il s'agit de l'horloge des trois rois, référence au roi mage.
Voilà, je vous remercie déjà de votre invitation, Jean-François.
C'est toujours un plaisir que de soutenir
je sais, vous êtes
Saisons
fidèle.
D'Alsace.
Vous êtes fidèle. Oui, pour en venir à l'horloge astronomique, trois horloges se sont succédées au fil du temps. La première, c'est celle dite des Trois Rois, justement. Elle a été construite en face de l'horloge actuelle.
On y voit encore la marque dans l'encadrement de la pierre de la cathédrale.
Alors en fait, elle a été construite par un inconnu. On n'a pas trace de l'origine. Et c'était l'une des premières horloges publiques astronomiques et à automates. Donc elle était dite horloge des Trois Rois à cause de ces automates des rois mages qui se prosternaient devant notamment la Vierge.
Voilà. Alors il en reste encore quelque chose, il faut traverser la place du château, aller au palais Rohan, au musée des arts décoratifs.
Il reste le coq automate, qui était unique en son genre, qui l'est toujours. C'est un prototype et on peut le voir au musée des arts déco, donc qui se trouve dans le palais des Rohan. Et pour cette horloge, cette première horloge, elle s'est arrêtée vers la fin du XVe siècle.
Donc on est au tournant de la Renaissance et c'est une autre horloge qui va prendre sa succession. Il y a un peu de temps de latence, je dirais quasiment un siècle, puisque cette horloge achevée à la fin du XVIe siècle. C'est le moment où la cathédrale de Strasbourg est devenue protestante.
Voilà. En fait, cette deuxième horloge a commencé à être édifiée vers 1547, à partir des premiers travaux du mathématicien chrétien Erlin. Et justement, après une interruption due à l'alternance religieuse liée à la Réforme, les travaux ont été achevés seulement entre 1571 et 1574 par le mathématicien d'Asipodius.
C'est pour Alors, ça qu'on l'appelle. Asipodius, voilà, c'est le mathematicus publicus de Strasbourg, professeur à la haute école. C'est une référence. C'est lui qui va coordonner ce chantier qui convoque des intelligences tout à fait remarquables des artistes de renom.
Il a été secondé par David Wolkenstein, des horlogers et puis le peintre Tobias Stimmer.
C'est un Suisse, lui.
Qui est célèbre aussi.
Qui nous vient de Schaffhouse.
Voilà, vous savez tout. Le buffet est encore visible actuellement. Il a été commencé par l'architecte Bernard Nonnenmaché et a été élevé jusqu'à 18 mètres de haut par Thomas Hulberger.
Voilà. Alors, il y a une singularité dans ce buffet, une double singularité. D'abord, les références iconographiques nous renvoient bien évidemment à la théologie protestante et singulièrement luthérienne, mais il y a aussi le portrait en pied de cette figure essentielle de la connaissance scientifique et singulièrement astronomique du 15e, 16e siècle, c'est Nicolas Copernic.
Il a mis ostensiblement sur l'horloge un portrait en pied de l'astronome.
Alors, il veut nous rappeler que Copernic a révolutionné la conception même de l'astronomie, considérant que l'univers n'est plus centré sur la Terre, mais autour du Soleil.
Autour du Soleil, voilà.
Et ça change radicalement tout le système de pensée à l'aune de la Renaissance.
En tout cas, cette horloge était vraiment fameuse pour son époque. Et elle s'est arrêtée en 1788, juste avant la Révolution française, en fait.
Alors, il y a là encore un temps de latence. Voilà. On n'arrive pas à la faire redémarrer. Et c'est un horloger, mathématicien de renom, voilà. Jean-Baptiste Schwilger, strasbourgeois de naissance, qui, enfant, était particulièrement admiratif de cette horloge astronomique qui va lui redonner vie. On est entre 1838 et 1843.
Voilà, c'est vraiment un chef-d'œuvre de la Renaissance. C'est Schwilger qui était professeur de mathématiques, vérificateur des poids et mesures et constructeur d'horloges d'édifices de grande qualité. Il a conservé le buffet Renaissance de l'ancienne horloge et a remplacé les mécanismes du XVIe siècle par de nouveaux mécanismes de sa conception d'une précision exceptionnelle, en fait.
Il sera d'ailleurs décoré par Napoléon III, qui viendra à son domicile au soir de sa vie à Strasbourg pour lui attribuer la Légion d'honneur. Et son atelier était situé rue Brûlé, à l'emplacement de l'actuel réfectoire de la doctrine chrétienne.
Vous me l'apprenez.
Ben voilà, il y a même une plaque qui rappelle cela. Donc effectivement, la contribution de Jean-Baptiste Schwilger est tout à fait essentielle et il a confié à l'œuvre Notre-Dame le mécanisme de l'horloge de Conrad d'Assipodius qui est aujourd'hui encore une fois visible au musée des arts décoratifs,
voilà,
à côté de ce coq automate dont nous parlions précédemment. Alors voilà pour cette première référence à l'astronomie en Alsace, cet incontournable du patrimoine qu'est l'horloge astronomique de Strasbourg. Nous allons marquer une première pause musicale dans cette émission Passé-Présent. Et on vous retrouve, Sylvie Baudin, dans un instant pour nous parler de l'Observatoire de Strasbourg. Mais avant cela, nous écoutons Robert Charlebois qui célèbre le 60e anniversaire de sa carrière musicale avec Les ailes d'un ange, titre de 1969.
Si j'avais les ailes d'un ange, je partirais pour
Québec.
Si j'avais des lumières sur mon bail, je partirais pour
Québec.
Si j'avais plus de gasoline, je monterais toutes les belles collines. Quand la noirceur sera venue, j'allumerai les lumières pour ma vue. Et je roulerai dans la nuit en chantant ces jolies mélodies. J'ai passé de belles nuits à Québec, en te caressant avec des beaux becs. J'ai passé de belles nuits à Ottawa, en te caressant, en te tenant dans mes bois. J'ai passé de belles nuits à Toronto. Mais si je me rappelle bien, ça fermait un petit peu trop tôt dans un baranto. Je suis un Hells Angels à pied. Je roule la baie sur du papier. Je mange des hot dogs, mais je bois du thé. Je suis un Satan's choice raté. Pour faire comme les vrais robineux, j'm'achète des beaux vieux habineux. Je suis un bon de bonne famille. Quand je vois sa main, je mange des gâtés. Et quand je fonce vers la lune, c'est bien assis en Volkswagen avec ma brune. J'aurais trop peur sur un chopper. Avec Aline pourvu que ça pine, avec Thérèse, fraise contre fraise. Faut pas que ça niaise. Oh! Si j'avais les ailes d'un ange, je partirais pour
Québec.
Si j'avais des lumières sur mon bac, je partirais pour
Québec.
Si j'avais plus de gasoline, je monterais toutes les belles collines. Quand la noirceur sera venue, j'allumerai les lumières pour ma vue. Et je roulerai dans la nuit. So when the twilight falls on the heights, I will light my lights for my sight. Et je roulerai dans la nuit en rechantant ces jolies mélodies. J'ai passé de belles nuits à Québec, en te caressant avec des beaux becs. J'ai passé une belle nuit à Ottawa, en te caressant, en tenant dans mes bois. J'ai passé une belle nuit à Toronto. Et si je me rappelle bien, ça fermait un petit peu trop tôt. Oh oui, mais si j'avais les ailes d'un ange, partirai pour
Québec. Québec. Québec.
Vous écoutez Passé Présent, l'émission historique de Radio Judaïca. Mon invité aujourd'hui, Sylvie Bodin, qui présente le 95e numéro des Saisons d'Alsace, intitulé « Astronomie, quand l'Alsace scrute l'univers ». Nous venons d'évoquer ensemble l'horloge astronomique de la cathédrale de Strasbourg. Mais il y a un autre incontournable, qui est l'Observatoire de Strasbourg, qui est un peu moins connu parce que moins facile d'accès, mais qui renferme des richesses tout à fait remarquables. Alors, il y a une histoire de l'observation astronomique à Strasbourg qui commence dès la seconde moitié du XVIIe siècle.
Voilà, ça commence dans l'année 1673, apparemment, c'est ce qu'on nous dit de l'histoire officielle de l'astronomie à Strasbourg, avec l'installation d'un premier observatoire au sommet de la tour de l'hôpital.
Qui est encore visible aujourd'hui.
Voilà, mais bon, c'était à la demande de Julius Reichelt, le titulaire de la chaire de mathématiques de l'université. Cela dit, rien ne prouve, en fait, que c'était le premier observatoire. C'est apparemment ce qui est dit, mais...
Ce fut un observatoire.
Voilà, ce fut
ça,
un observatoire.
Ça, on en est certain.
Il a sombré un peu dans l'oubli, et puis il faudra quelques années pour qu'il renaisse, donc au 19e, en 1828, et il sera cette fois installé au troisième étage d'une tour de l'Académie.
Alors l'Académie, c'est le siège de l'université.
De la fac de médecine, voilà.
Ah, pas la fac de médecine, c'est la seule qui n'y était pas.
Oui,
ouais. La fac des sciences,
oui,
y était, avec
science.
Pasteur qui va y enseigner, fac des lettres, fac de droit. Et tout ceci dans le bâtiment qui est aujourd'hui...
Le lycée Oberlin.
Voilà, le lycée Oberlin, au cœur de la Cruteno. Malheureusement, cette tour n'existe plus.
Non, voilà. Ensuite, il faudra attendre les événements un peu tragiques de l'annexion de l'Alsace-Moselle dans le cadre du traité de Francfort de 1871, donc après la guerre franco-prussienne. Les autorités allemandes ont désiré faire de Strasbourg une capitale grandiose quoi, du Reichsland. Et ils trouvent, en tout cas, en l'occurrence, une astronomie en déshérence à ce moment-là. Donc, c'est à ce moment-là, effectivement, que naît le projet de créer déjà d'une part la Neustadt par Guillaume II. Et au sein de cette Neustadt, donc, qui s'appelle toujours aussi Neustadt actuellement, et quartier ou quartier allemand, de créer aussi un observatoire astronomique. Donc il sera construit, il sera inauguré pardon, en 1881. Et
il est construit par Hermann Egert,
Egert
qui est l'architecte de l'empereur et qui va construire surtout
le palais du Rhin, aussi.
Le palais du Rhin, c'est-à-dire le palais impérial, voilà, Kaiserpalatz.
Voilà. L'architecte donc va travailler avec celui qui à l'époque nommé directeur, Wieneke, et ils vont bâtir vraiment cet édifice qui prend place sur le nouveau campus et qui est inauguré donc l'année suivante. C'est un véritable complexe en fait. Hein, il y a trois bâtiments. Alors, je ne sais pas si vous voulez parler tout de suite.
Oui, on peut en dire un mot, bien sûr.
Voilà, il y a trois bâtiments. Donc, ce grand bâtiment que tout le monde connaît un petit peu avec la grande coupole, qui est le bâtiment principal, c'est là qu'il y a une immense... Il y a la grande lunette équatoriale.
C'est le plus visible.
Voilà, c'est ce qui est le plus visible. Il y a un second bâtiment en L, où il y a des coupoles aussi, où il se faisait des observations plus simples. Et puis, il y a un bâtiment qui était destiné au logement du personnel, notamment. Voilà.
Et tout ceci dans un beau jardin.
Voilà, un jardin absolument magnifique, actuellement à côté du jardin botanique. Mais il se retrouvera en piètre état, en fait, lorsqu'il passera aux mains des Français à la fin de la Première Guerre mondiale, il faut bien l'avouer.
Et là, effectivement, les Allemands vont puissamment investir en matériel, parce que voilà. Cette université de Strasbourg, cette... Université impériale de Strasbourg est la mieux dotée en Allemagne après la Humboldt-Universität de Berlin et l'observatoire va devenir une des premières références européennes en ce domaine.
Tout à fait, et c'est pour ça qu'il reste dans les collections de l'observatoire, il y a un inventaire qui a été fait. Il y a près de 200 objets et instruments qui ont été recensés, qui sont conservés toujours ici à Strasbourg. Bon, la plupart ne sont pas visibles par le public, mais la plupart datent de cette période-là, en fait. C'est vraiment des instruments qui ont été achetés à l'Allemagne, des instruments vraiment de pointe à l'époque.
Alors, j'ai noté... dans les pages des Saisons d'Alsace, quelques objets tout à fait remarquables qui enrichissent hein, donc ces collections de l'Observatoire astronomique de Strasbourg. Un quart de cercle du fabricant Chapoteau, deux astrolabes. Hein. L'astrolabe, je le rappelle, permet de déterminer avec précision la position des étoiles. Donc, il y a un astrolabe marocain qui date du tout début du XIIIe siècle.
Tout à fait, c'est l'un des plus anciens.
1209. Et puis, un astrolabe occidental qui, lui, est un peu plus tardif, seconde moitié du XVIe siècle, 1579 précisément, et qui nous vient d'Allemagne et qui aurait probablement été employé par Conrad d'Asipodius.
C'est ce qui se dit maintenant. Bon,
En tout cas, la légende est belle.
Voilà, je ne pourrais pas vous l'affirmer.
Alors, il y a également une lunette méridienne fabriquée par la maison Cauchois de Paris, lunette du XIXe siècle, qui se trouvait... dans le deuxième observatoire, hein, celui de la rue de l'Académie, il y a un chercheur de comètes. Alors ça, c'est tout à fait remarquable.
Voilà.
Il y a une photo qui l'illustre dans les Saisons d'Alsace.
Voilà, c'est tout autour du dôme, des rails sur lesquels l'astronome peut s'installer et tourner autour du dôme en restant installé sur son siège. Avec sa lunette.
Siège inclinable.
Inclinable, enfin c'est incroyable, c'est tout à fait incroyable à voir et les photos sont intéressantes.
Et ça date des années 1880.
Tout à fait, c'est ça, c'est vraiment cette période. Parmi les instruments d'observation, quand même, je vais en reparler, c'est la grande lunette équatoriale. C'est quand même l'une des pièces maîtresses.
C'est une des plus puissantes au monde.
À l'époque, c'était la plus puissante d'Allemagne. Aujourd'hui, c'est la troisième plus grande de France. Mais c'était vraiment quelque chose d'impressionnant. Et c'est toujours impressionnant. Actuellement, quand il y a des visites guidées de l'observatoire, les gens sont effarés. D'ailleurs, on a choisi cette grande lunette pour la une du magazine. Bon, ça fait parfois un petit peu... Bon, c'est de la ferraille, hein. C'est plus du tout dans l'air du temps.
Ah, mais c'est le patrimoine. Hein.
Voilà, tout à fait, tout à fait. Ce qu'il ne faut pas oublier non plus dans les collections, je dirais, c'est le globe de Coronelli.
Oui, alors ça, c'est tout à fait remarquable.
C'est absolument fabuleux. Et celui-là, par contre, il est tout à fait visible pour les visiteurs.
Il est dans le hall d'entrée.
De l'observatoire. Et il a fait l'objet, l'année dernière, de plusieurs mois de restauration, parce qu'effectivement, il était très sale, très, très abîmé.
Précisons que c'est une pièce de la toute fin du XVIIe siècle.
1697.
De Vincenzo Coronelli, qui est un moine, cartographe, astronome vénitien, et c'est l'ambassadeur de France à Rome, le cardinal d'Estrée, qui en fait cadeau au roi Soleil.
À Louis XIV. En fait, celui qui est à Strasbourg, il a été fabriqué par Gatelier, mais sur ce modèle-là, mais à cette même époque. Hein, donc, mais c'est vrai que Coronelli avait fabriqué les deux globes monumentaux qui sont les plus connus et ceux qui ont été offerts à Louis XIV et qui sont exposés actuellement à la...
Alors ça, c'est une pièce exceptionnelle, déjà pour son esthétique.
Ah, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. La surface, maintenant, a été numérisée et ça permet la projection d'une navigation virtuelle dans le ciel de la naissance du roi Soleil. Donc, en les comparant avec les cartes célestes d'aujourd'hui. Enfin, moi, je trouve ça magnifique, c'est ma pièce préférée.
Ah oui, esthétiquement, ouais. c'est sans égal.
Voilà.
Ces collections, elles sont visibles ?
Non, comme je disais, la plupart sont en réserve. Une seule petite partie est visible pour le grand public dans le cadre du parcours de visite guidée du patrimoine de l'Observatoire. Donc ces visites vont reprendre au mois de mai.
Donc il y a des visites régulièrement proposées.
Tout à fait, tout à fait.
D'accord.
Donc c'est le Jardin des Sciences qui organise ça.
Donc
à
il
Strasbourg.
Faut solliciter le Jardin des Sciences.
Voilà,
si
il faut
on
regarder sur leur site internet, voilà pour avoir les informations. Et voilà, et on peut voir un certain nombre d'objets, mais la majorité donc sont dans les réserves à titre conservatoire.
Bien sûr. Et puis il y a en 1982 l'ouverture du planétarium.
Ah ça c'est vraiment une
c'est
énorme
un grand
réussite.
Événement. Moi je me souviens, j'étais collégien à l'époque, on nous a emmené au planétarium, c'était un moment magique.
Voilà, c'est assez révolutionnaire et c'est d'ailleurs le seul planétarium universitaire en France et il a été créé par Agnès Acker, une astrophysicienne donc de l'observatoire. Et il se trouve que ça accueille toute l'année en permanence des tas de gens. Il était hébergé jusqu'à présent dans l'un des bâtiments de l'observatoire. Donc, ce n'était pas l'idéal. Aujourd'hui, il s'apprête à déménager. Nous en avons fait un beau chapitre, je pense, dans le Saison d'Alsace, en montrant les documents d'architectes, parce que le chantier n'est pas encore tout à fait terminé. Il doit ouvrir au mois d'avril, je pense. Avec un écran dôme fantastique qui reconstitue le ciel. Enfin bon, c'est une découverte extraordinaire à faire. Et ils organisent aussi beaucoup d'événements. Lorsqu'il y a des éclipses, tous les phénomènes, comme ça, il y a du monde qui est là. Il y a des éducateurs, des animateurs. Je pense que ça vaut le coup aussi, quand on s'intéresse à l'astronomie, ne serait-ce qu'un tout petit peu, d'y passer un petit moment.
Car il faut rappeler que cet observatoire astronomique est une composante de
l'université
voilà.
de Strasbourg. C'est particulier aussi.
Donc avec une mission de recherche scientifique, mais aussi de transmission du savoir.
Voilà, tout à fait. Aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est qu'à l'observatoire, j'allais dire, on n'observe plus tellement. En fait, c'est plus tellement le but, c'est la formation essentiellement. Parce que la recherche en fait. L'observation maintenant, elle se fait via les satellites, hein. On est passé dans une autre ère. Par contre, l'observatoire abrite également le CDS, le Centre de données astronomiques. Il est très important de le citer. C'est également quelque chose d'unique en France et même unique au monde. Puisqu'il glane toutes les informations, toutes les données astronomiques possibles, imaginables, des données qui sont consultables par n'importe qui dans le monde. Donc j'ai publié une carte où l'on voit justement les demandes émanant du monde entier. Il y en a dans les petits coins d'Afrique. Enfin, c'est incroyable. Voilà. Le CDS est un élément extrêmement important également de l'Observatoire.
Sylvie, nous allons marquer une nouvelle pause musicale. On vous retrouve pour la suite de cette conversation à propos de l'astronomie en Alsace. C'est toujours Robert Charlebois qui nous accompagne en chanson durant cette émission. Un titre de 1971, « Ordinaire ».
Je ferai de la musique avec le gros Pierre. Mais faut que je pense à ma carrière. Je suis un chanteur populaire. Vous voulez que je sois un dieu? Si vous saviez comme je me sens vieux, je peux plus dormir, je suis trop nerveux. Quand je chante, ça va un peu mieux. Mais ce métier-là, c'est dangereux. Plus on en donne, plus le monde en veut.
Écoutez, passé, présent, l'émission historique de Radio Judaïca. Mon invité aujourd'hui en studio, Sylvie Bodin, qui nous présente le 95e numéro des Saisons d'Alsace, intitulé « Astronomie, quand l'Alsace scrute l'univers ». Vous faites un focus cette revue sur les directeurs l'Observatoire des personnages, tout à fait
Il y a eu quelques grandes figures. On a parlé déjà un petit peu tout à l'heure de Winnecke, qui a été un peu qu'on appelle le bâtisseur.
Voilà, lui, il est resté 10 ans.
C'est le bâtisseur. Il est arrivé de Pulkovo, près de Saint-Pétersbourg. C'est lui qui a supervisé en fait la construction des bâtiments, comme on l'a dit tout à l'heure, et qui a géré le parc d'instruments. On lui doit quand même tous les instruments dont on a parlé tout à l'heure. Ensuite, la deuxième grande figure, c'est Sclangon. Il est arrivé de Bordeaux et il a tout réorganisé. Il a renouvelé.
Là, on est à l'époque française.
En 1919. Il est arrivé en 1919, il est resté 10 ans. Il a renouvelé tout l'outillage scientifique et il a notamment mis au point un système pour synchroniser toutes les horloges qu'il étend à la ville entière. Pour la petite histoire, les astronomes sont surnommés les maîtres du temps. Hein.
Alors lui, il en était passionné.
Il faut rappeler, parce que c'est encore tout récent, que lorsqu'il a été nommé à Paris, quelques années plus tard, il a été l'inventeur de l'horloge parlante.
Tout à fait.
Voilà, au quatrième top, il sera.
L'horloge parlante qui était bien précieuse pour rajuster les montres et les horloges.
Il n'y avait pas de portable à l'époque, quand il l'a inventé.
Créé en 1933 et malheureusement disparu.
Le 1er juillet dernier. Donc c'est très récent en fait, mais c'est vrai qu'avec les, comme je disais, avec les portables, maintenant les gens n'ont plus besoin de faire le 36-99 pour savoir quelle heure il est.
On aurait pu symboliquement conserver ce service à titre de transmission patrimoniale.
Peut-être. Alors ensuite, celui qui lui a succédé est également quelqu'un d'important, c'est André Danjon. Il a inventé de nouveaux accessoires, par exemple la balance de Danjon, qui mesure le reflet de la Terre sur la Lune. Et comme Esclangon, il a poursuivi sa carrière à Paris, ce qui n'est pas rien. Ça montre vraiment que Strasbourg a été un
marchepied.
Voilà. Ensuite, un petit peu plus tard, on a Pierre Lacroute. Alors ça, on passe dans une autre ère.
Après la Seconde Guerre mondiale.
Alors là, on est en 1946.
Et lui, il va rester 30 ans.
Jusqu'en 76, voilà. Et il a vraiment propulsé l'institution dans l'ère spatiale dans les années 60. Il a notamment conceptualisé le programme Hipparcos. C'est un satellite. Parce que comme je disais tout à l'heure, maintenant on observe le ciel avec les satellites.
Bien sûr.
Voilà. Donc ce satellite a été mis en orbite en 1989. Il a également créé, j'en parlais tout à l'heure, le centre de données, le CDS. Enfin, on peut quand même faire un petit clin d'œil au directeur actuel, Pierre-Alain Duc, qui dirige quand même une centaine de personnes et qui contribue dans certains groupes de travail nationaux et internationaux à pas mal de recherches. Certaines recherches ont d'ailleurs été récompensées. Donc, c'est vraiment un chercheur de pointe aussi.
Alors, ce sont effectivement des hommes qui ont contribué au renom de cette institution qu'est l'Observatoire astronomique de Strasbourg, dont la ville doit être fière.
J'espère.
Et vous y contribuez à travers cette publication des saisons d'Alsace. Nous allons marquer, Sylvie, une troisième pause musicale dans cette émission avant de parler d'un événement qui a eu lieu en 1492 à Ensisheim, alors capitale de l'Alsace antérieure, c'est-à-dire siège de la régence des Habsbourg dans la partie méridionale de notre région, une météorite qui s'écrase sur le sol alsacien. Mais avant cela, nous retrouvons Robert Charlebois avec un titre de 1975, Lindbergh.
Whisper, jet, clipper, jet, turbo. À propos, je suis pas rendu chez Sophie. Qui a pris l'avion Saint-Esprit de Duplessis sans m'avertir? Alors je suis reparti sur Québec Air, Transworld, London, Eastern, Western, puis Pan-American. Je sais plus où je suis rendu.
fléché farci. Et toujours la Sophie qui venait de partir. Sur Québec Air, Transworld, Northern, Eastern, Western, Pipan American.
Mais je sais plus où je suis rendu.
Y avait même une compagnie qui engageait des pigeons qui volaient en dedans et qui faisaient du ballon.
Vous écoutez Passé, Présent, l'émission historique de Radio Judaïka consacrée aujourd'hui à l'astronomie en raison de la publication du numéro 95 des Saisons d'Alsace intitulé « Astronomie, quand l'Alsace scrute l'univers ». Et pour nous en parler, Sylvie Baudin, journaliste aux Dernières Nouvelles d'Alsace, c'est elle qui a coordonné numéro 95 des Saisons d'Alsace. Et je le disais, chose tout à fait insolite, le 7 novembre 1492, on est en toute fin de matinée, vers 11h30, une météorite tombe à Ensisheim. Alors nous en avons des descriptions, en particulier par le grand humaniste Sébastien Brandt.
Voilà. Ouais. Oui, donc en fait, c'est une météorite de 130 kilos. Donc c'est pas un petit bout de pierre,
rien, hein.
C'est pas rien, qui est tombé dans un champ à 3 km au sud-est d'Ensisheim. Donc vous dites le 7 novembre, alors il y a certains textes qui disent le 16, voilà, mais bon, voilà, on va garder.
Les calendriers n'étaient pas, on était encore dans le calendrier juillen et pas dans le calendrier grégorien.
Bon, c'était il y a 530 ans quand même, et c'est quand même la plus ancienne dont la chute a été observée et qui est conservée dans le monde occidental quand même. Et effectivement, comme vous le dites, l'événement est relaté par, sur une feuille volante par Sébastien Brandt, le poète allemand humaniste, l'auteur de La Nef des Fous. Et pour la petite histoire, cette scène avec Sébastien Brandt fait l'objet d'une fresque sur l'une des façades de la centrale pénitentiaire de la ville.
Donc, parce qu'aujourd'hui, Ensisheim est plus connue
pour
sa
ça.
Centrale pénitentiaire que pour la météorite.
Voilà. Alors à l'époque, certains ont parlé d'illusions d'optique, de phénomènes météo, mais pour Brandt, c'était quelque chose de divin. Comme pour le roi autrichien de Maximilien, qui va y voir un signe, qui c'est le moment de marcher sur les Français. Donc, comme vous le disiez, à l'époque, Ensisheim, c'est la capitale administrative de l'Autriche antérieure. Donc, il va faire escale à Ensisheim, il va faire suspendre la météorite dans l'église et il remportera la bataille. Comme quoi, effectivement, il y avait peut-être quelque chose.
En tout cas, une heureuse coïncidence.
Voilà, en tout cas. Et l'origine extraterrestre de la météorite, par contre, ne sera confirmée que trois siècles plus tard.
En 1794, au moment où elle est transférée d'ailleurs à Colmar, au musée départemental, et elle reviendra avec l'Empire en 1804 à Ensisheim.
Voilà, elle sera restituée à ce moment-là à Ensisheim. Mais entre-temps, déjà, elle va être ponctionnée de toutes parts par les grands musées du monde, hein, puisque tout le monde veut son petit bout de météorite. Elle va être hébergée d'abord à l'église, accrochée au clocher, mais le clocher va s'effondrer. Ensuite, elle sera hébergée à l'école, puis à la mairie. Et depuis 1992, elle est au musée de la Régence de la ville, qui a été construite un peu pour elle, en fait. Donc voilà. Aujourd'hui, il en reste 53 kilos. 53 kilos, 831, très exactement.
À peu près la moitié.
Voilà. Et tous les musées du monde ont cherché à voir des petits bouts de cette météorite. Et si on voulait calculer le prix, c'est inestimable, en fait. C'est inestimable. Voilà, le musée de la minérologie de Strasbourg en a aussi.
Oui, alors ça, c'est quelque chose de très intéressant, parce que Strasbourg a une kyrielle de musées scientifiques qui appartiennent à l'université, gérée par le Jardin des sciences. Et il y a parmi ces musées un musée de
la
minéralogie,
tout à fait.
Qui est à l'Institut de minéralogie, comme son nom l'indique, et qui rassemble plus de 400 fragments de météorites, dont certaines célèbres.
Voilà, tout à fait. Et ce qui est important aussi, c'est de savoir que, si on revient juste à Ensisheim, c'est là que se déroule la Bourse des météorites, qui est un événement unique en France et qui réunit chaque année des centaines d'amateurs. Les gens sont à la recherche des petits bouts de cailloux, les photos sont impressionnantes, ils vendent, ils échangent des petits bouts de cailloux comme ça.
Que peut-on dire de l'aujourd'hui de l'astronomie en Alsace ? Quelles sont les institutions autres que l'observatoire qui portent ce travail scientifique ?
Alors, aujourd'hui, il y a une très grande communauté d'astronomes amateurs. En fait, quand on dit amateur...
Amateur éclairé.
J'allais dire même plus qu'éclairé, car il y a un certain nombre d'entre eux qui travaillent avec les astrophysiciens professionnels. Comme on peut le voir dans le magazine, ils vont eux-mêmes implanter des téléobjectifs, dans des zones désertiques, en Amérique du Sud, par exemple, et puis des téléobjectifs qu'ils manipulent depuis chez eux, en Alsace. Donc, ça constitue quand même une source d'information pour les professionnels. Sinon, c'est à peu près tout. C'est une énorme communauté, en fait.
Il y a l'Université de l'Espace également.
Alors, l'Université de l'Espace travaille moins sur l'astronomie. C'est pour ça que je ne l'ai pas cité. J'y ai consacré 4 pages dans le magazine, mais c'est vrai que c'est à la limite. C'est à la limite. C'est vraiment l'espace, la découverte de l'espace, mais c'est pas l'astronomie en tant que telle. C'est pour ça, je me suis permise de pas
le citer. Mais sa réputation est internationale.
Tout à fait, tout à fait.
Merci beaucoup Sylvie, vous êtes la bienvenue. N'hésitez pas à revenir au micro de Radio Judaïka. Quelle est l'actualité des saisons d'Alsace
Alors,
dans les prochains mois?
Mon confrère Hervé Chalandar prépare un numéro à paraître au mois de mai sur la richesse des sous-sols. Puisque l'Alsace est riche en que ce soit en potasse, en pétrole, en fer, etc. Personnellement, je prépare les 2 numéros qui suivent, c'est-à-dire un qui sera consacré à la préhistoire en Alsace, une thématique qu'on n'a pas traitée encore, et le suivant sur les cabarets et théâtres. Donc ça n'a rien à voir. Voilà mes 2 prochains numéros.
Merci beaucoup pour ces précisions. Je voudrais dédier cette émission à Gilbert Weil, qui a été souvent notre invité. Il vient de s'éteindre à Jérusalem à 90 ans. Il fut en 1999 le fondateur du musée judéo-alsacien de Buxwiller. Et je tenais à lui rendre hommage, car il a beaucoup apporté à l'histoire du judaïsme alsacien et à la transmission de son patrimoine. Merci à Thomas qui a réalisé cette émission. Merci à vous, Sylvie.
Je vous remercie pour l'invitation.
D'avoir participer à cette émission et nous nous séparons en chanson avec toujours Robert Charlebois qui fête cette année ses 60 ans de chanson. C'était en 1976, peut-être son plus grand succès. Je reviendrai à Montréal.
À Montréal, dans un grand Boeing bleu de mer, j'ai besoin de revoir l'hiver et ses aurores boréales. J'ai besoin de cette lumière descendu droit du Labrador et qui fait neiger sur l'hiver des roses bleues, des roses d'or. Dans le silence de l'hiver, je veux revoir ce lac étrange entre le cristal et le verre, où viennent se poser des anges. Je reviendrai à Montréal, écouter le vent de la mer se briser comme un grand cheval sur les remparts blancs de l'hiver. Je veux revoir le long des airs des rues qui n'en finissent pas, qui vont jusqu'au bout de l'hiver sans qu'il y ait trace de pas. J'ai besoin de sentir le froid, mourir au fond de chaque pierre et rejaillir au bord des toits comme des glaçons de bonbons.